Un toit dans le monde, l'émission de l'immobilier international en partenariat avec Agence Étoile sur Radio Immo.
Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Un toit dans le monde, une émission qui nous fait voyager, qui nous fait découvrir des endroits incroyables dans le monde. Aujourd'hui, nous partons en Afrique de l'Ouest, sur le littoral atlantique sud de la Côte d'Ivoire, plus précisément à Abidjan, ville magnifique que nous allons donc découvrir ensemble. Pour cette émission, je suis évidemment avec André Périssel. Bonjour.
Bonjour Bernice.
Comment allez-vous ?
Très bien, toujours.
Je rappelle que vous êtes président de l'agence Étoile. Et je suis également accompagnée par Marie Espinoza. Bonjour.
Bonjour Bérénice.
Comment allez-vous ?
Très bien, merci. Et vous ?
En pleine forme.
Bon.
Team leader pour l'agence Étoile. Et pour ce numéro, nous accueillons deux invités. Le premier est en plateau. Est-ce que je dois encore le présenter ? Il s'agit de Henri Buzicazo. Bonjour.
Bonjour Bérénice. Non, j'ai pas à être présenté parce que je suis un ami de Radio Immo. Et un ami d'André Périssel.
Et voilà. On vous connaît si bien, mais c'est un plaisir de vous recevoir.
Peut-être un ami d'une autre personne qui va arriver.
C'est
aussi.
Ça. Voilà. En fait, on est tous amis. Président de l'IMSI et en visio, en direct d'Abidjan, Carole Holo, bonjour.
Bonjour Bérénice.
On est ravis de vous recevoir. Vous êtes la présidente de la Chambre du droit des affaires et de l'immobilier. Et c'est un plaisir. Voilà, vous allez nous faire découvrir cette belle ville. Eh bien,
avec
on est bon.
Avec plaisir.
C'est parti pour Un toit dans le monde.
Un toit dans le monde, l'actualité de l'agence Étoile.
Et oui, on commence avec l'actualité. André, nous allons parler des villes. Les villes sont-elles égales devant le DPE ?
Eh bien non Bérénice, puisque vous posez la question, villes ne sont pas toutes égales devant le DPE. Il faut quand même signaler que selon une étude du Parisien, 40% des DPE sont des E, F et G, et donc ce sont autant de logements qui, sans travaux, pourraient ne plus être disponibles à location.
Bah oui.
Donc pas mal de produits qui risquent d'être retirés du marché.
Et ça a commencé pour les pires G. Hein.
Ça a commencé. En Ile-de-France, c'est un DPE sur quatre qui se conclut par un résultat F ou G. Et 40% dans la seule ville de Paris. Donc pas mal de biens en F ou G qui arrivent à la vente parce que les propriétaires ne veulent pas faire les travaux. Toutes les villes ne sont pas égales dans le classement de leur proportion F et G. Le record de France est à Saint-Mandé, 56% de DPE sont F et G. Alors j'ai regardé un peu les statistiques de Saint-Mandé, les prix ne baissent pas encore, mais ça risque d'arriver. Pour les grandes métropoles, Lille 21%, donc on est à la moitié de Paris, c'est quand même intéressant.
Ouais,
Bordeaux 15%, Lyon 14%, Marseille 9%, donc à Marseille on est un peu tranquille. Et pour faire plaisir à Henri, Pau est à 13%.
Je te remercie.
Voilà. Oui, donc, toutes les villes ne sont pas effectivement au même niveau pour ce critère.
Bah c'est vrai qu'entre Saint-Mandé 56% et Marseille 9%, il y a un gros écart.
Oui, comment on se l'explique d'ailleurs cet écart ? Est-ce que c'est dû au fait que Marseille a des constructions plus modernes ? Justement, ça a été construit à plus dans les années 60, donc ils ont des meilleurs DPE que nos vieux immeubles médiévaux du centre parisien.
Je pense que c'est une question de climat, parce que beaucoup d'immeubles à Marseille ont été construits dans les années 70. Les grands ensembles sont plutôt des années 70, donc c'est une question de climat, plus que de construction.
Enfin, et alors justement, il n'y avait pas une chose comme quoi le climat ne devait pas faire partie du DPE, Henri ? Il n'y avait pas...
Oui, alors simplement, ce que dit André, c'est que effectivement, ça rejoint l'histoire de la construction. On a construit dans des villes qui ont été très dynamiques, et notamment avec l'héliotropisme, ouais. Marseille en a fait partie.
Donc c'est plus récent,
largement.
En fait.
Donc c'est plus récent, et donc on a une part du patrimoine qui est mieux classée, qui répond mieux aux normes.
Au confort d'été, au confort d'hiver.
Voilà, tout simplement. Ouais. C'est l'histoire des villes et de la construction de leur patrimoine qui est l'indicateur finalement, et on retrouve cet écart-type énorme, entre 8, 9, 10% et puis 30, 40, 56%, c'est colossal. Quoi.
Ouais, c'est vrai qu'à Paris, le baron Haussmann, par exemple, ne faisait pas attention au DPE à l'époque.
Oui, alors, il faisait attention à d'autres choses.
Par exemple,
c'est une ville dense, contre toute attente. Le baron Haussmann a densifié l'urbanisme, mais oui, bien sûr, il y a la question de des matériaux choisis, des procédés constructifs. Il faut bien dire aujourd'hui, d'ailleurs, le neuf ne va pas bien, hein, voilà, faut le dire pour nos amis promoteurs et constructeurs de maisons individuelles, mais les produits neufs ou récents, il y a 10 ans, 20 ans, ben, sont mieux classés dans les PE, hein, faut être clair, hein, les normes sont passées par là. Hein.
Alors justement, on va faire votre interview, Henri, c'est le moment de donner la parole à nos experts, André.
Un toit dans le monde, la parole aux experts.
Et oui, Henri, puisque André a des questions pour vous.
Voilà, Henri, en rénovation énergétique, le gouvernement donne peu de moyens aux propriétaires pour faire la rénovation. Est-ce qu'il y a des pistes à étudier, à envisager, à donner au gouvernement qui semble à court d'idées ?
Moi, je crois que il faudrait déjà dire aux ménages français, propriétaires bailleurs notamment, qui vont tomber sous le coup des interdictions de louer, hein, c'est déjà le cas depuis le 1er janvier dernier, que l'État ne fera pas tout. Voilà, moi je vais être clair avec ça, parce qu'il y a un discours, une petite musique, y compris du côté de l'État, hein, qui est « on vous aide », enfin en gros, ne vous inquiétez pas. Non, il y a une contribution des ménages qui va devoir être apportée. Alors, en cash, si je puis dire, pour ceux qui le pourront, c'est une partie hein, des propriétaires bailleurs ou des copropriétaires, mais surtout avec le concours des banques. Au congrès de la FNAIM, tu y étais, moi aussi. On est à la fin de l'année 2022. Le ministre de la Ville et du Logement dit « je vais inviter, tendance, convoquer les banques pour savoir si elles vont être au rendez-vous de l'histoire pour financer la transition énergétique ». Le sujet va être là. Je suis un bailleur, j'ai 35 ans, 50 ans ou 70 ans. Et c'est pas les mêmes situations. Est-ce que ma banque va me prêter les 20, 30 ou 40 000 euros nécessaire pour redresser la qualité énergétique de mon bien? L'essentiel, si je suis en copropriété, devant se faire sur l'enveloppe d'ailleurs, hein, c'est-à-dire sur l'immeuble, et puis un petit peu en partie privative. Mais à l'arrivée, ça va être par exemple 35 000 euros ou 30 000 euros. C'est énorme, c'est colossal. Est-ce que la banque va me suivre là-dessus? Une grande partie de la réponse, pour moi, elle va être du côté des banques privées qui vont financer les ménages. Une partie sur fonds propres pour ceux qui auront un peu d'épargne, et une partie, les aides publiques. MaPrimeRénov', ça n'est pas rien. Bon, ça n'est pas rien, faut pas dire l'État ne fait rien. Mais ce sont des amorces. Et accessoirement, on rappellera d'ailleurs qu'elles sont assez équitables, c'est-à-dire qu'on vous prête selon vos moyens. Si vous avez des revenus faibles, on vous prête, l'État vous aide davantage.
Mais ceux qui ont des bons revenus n'y ont pas le droit,
voilà,
par exemple.
Et ceux qui ont des revenus considérables ont une aide publique qui est
pas forcément
très, très
considérable.
Faible.
Hein. Bon revenu, il y en a qui n'ont pas le droit.
Considérable, au-delà de 3 000, 4 000 euros de revenus par mois, on est dans les gros revenus du pays, hein, faut le dire statistiquement. Donc c'est ça, hein, c'est pas, je dis pas les gens riches. Mais globalement, l'aide publique, elle a été calibrée de manière à ce qu'on aide plus ceux qui en ont davantage besoin. C'est pas scandaleux. Moi, je trouve ça normal. Donc ça veut dire qu'il va falloir que les banques soient au rendez-vous de l'histoire. Il n'y aura pas d'autre solution. Et après, on peut dire, c'est pas la question que pose André, mais elle est derrière, on peut dire, ah mais est-ce qu'il faut repousser les échéances de 2 ans, 3 ans, 5 ans, 20 ans, vous savez quoi ? À un moment donné, il va falloir y aller. Donc ça, c'est encore un autre sujet, mais il va falloir y aller. Il va falloir transfigurer le parc, c'est vrai.
Mais le problème, juste, si je peux revenir sur MaPrimeRénov', c'est que ça demande des artisans et entreprises qualifiés RGE,
oui,
qui sont plus chers. Et nous, on a reçu sur ces plateaux des professionnels de l'immobilier qui nous disaient qu'au final, ça ne servait à rien d'avoir les primes, puisque les artisans et les entreprises sont
c'est
plus chers.
C'est un gros sujet, il faut être très honnête avec ça. Ce que vous dites, Bérénice, c'est central. L'État a voulu que des entreprises soient identifiées quand leur qualification pour mener à bien les travaux concernés est attestée. Bon, c'est-à-dire que, là, c'est que les personnels sont mieux formés, ils obéissent à des procès de fabrication.
Mais le sont-ils ? On a vu qu'il y avait plein de fraudes, d'escroqueries, c'est un gros sujet. Ça,
le crible.
Et qu'ils ne sont pas assez nombreux de toute façon pour satisfaire.
Ils sont de moins en moins nombreux.
Ils
étaient 15% des entreprises, on tombe à 10%.
À 10%,
donc déjà,
ouais.
Ça veut dire que les conditions auxquelles il faut répondre, administratives, il faut répondre à des dossiers, il faut répondre à des critères, sont, les conditions tracassières. Donc il y a des entreprises qui disent on n'y va pas. Et ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises.
Exactement.
Et deuxièmement, est-ce que les critères en question attestent effectivement de la qualité, du respect des procédés ? La réponse est non. Voilà, on va être très clair pour simplifier.
Donc,
on
n'a pas deux
heures. Oui, il y a un sujet. Donc l'État, aujourd'hui, doit revoir ses process de qualification. Ça veut dire que aujourd'hui, je veux faire des travaux. Est-ce que je dois avoir affaire à une entreprise qualifiée RGE ? Pas forcément. Si j'ai affaire à une entreprise bien connue localement, bien parce que je suis à Saint-Mandé, on citait cette ville-là, ou à Marseille,
ou à Pau, ou à Lyon.
Il y a des entreprises bien connues, depuis 2-3 générations. Elles travaillent bien, avec des tarifs moindres, parce que, effectivement, elles ne sont pas RGE, et donc elles n'ont pas cette pression-là. Il faut avoir affaire à elles. Il n'y a pas de problème. Et elles vont s'engager sur la qualité du travail. Mais ça veut dire que le crible RGE, aujourd'hui, ne va pas. Voilà, il n'est pas suffisant, il n'est pas rassurant, ni pour les administrateurs de biens, par exemple, qui veulent recommander à leurs clients, ni pour les clients eux-mêmes.
Et donc ça veut dire que les personnes qui veulent faire affaire à ces bons artisans qui ne sont pas certifiés n'ont pas le droit à MaPrimeRénov'.
Alors ça signifie, puisque c'est très juste, le RGE voulait dire vous êtes assuré d'une certaine qualité, et grâce à ça, vous avez droit aux aides publiques. Mais quand vous avez affaire à une entreprise qui est allée 20 ou 30% moins cher, que les aides publiques... auquel vous avez droit, vous modérerez la facture, mais qu'à l'arrivée, vous allez payer le même prix avec une entreprise qui ne vous donne pas droit aux aides, peut-être même moins. Voilà, il y a un problème. L'aide publique, elle doit être là pour modérer la facture à la condition que l'entreprise ne surfacture pas. On a des problèmes de surfacturation par des entreprises RGE. Il faut être très clair aujourd'hui, il faut le dire.
Oui, on a l'impression que ça a été fait, décidé un peu à la va-vite, hein, et que tout n'a pas été bien pensé.
Oui,
bien,
mais comme tout ce qui y a trait à la transition environnementale. Bon, André le sait, moi quand je dis il faut y aller, est-ce qu'on peut être aujourd'hui sceptique, climato-sceptique, ou je ne sais pas comment il faut dire, par rapport à tout ça? Non.
Ça existe encore des climato-sceptiques?
Je ne crois pas. Bon, enfin, non, vous savez pourquoi? Parce qu'en août dernier, on est en mars, en août dernier, on a vu à nos portes les effets du dérèglement climatique. Aujourd'hui, à Toulouse, par exemple, j'y serai demain, la Garonne est à l'étiage. Ouais. Il n'y a plus d'eau. Ouais. Bon. Le dérèglement climatique, il est là.
Donc, ça, c'est un autre gros sujet du gouvernement, d'ailleurs, la sécheresse.
Hein. Bien sûr. Sécheresse, canicule, froid excessif. Bref, les dérèglements climatiques, ils sont là aujourd'hui. Celui qui peut les nier, moi, je lui donne rendez-vous. Bon, il y en a quasiment plus. Le sujet, c'est, est-ce qu'on peut dire, ah ben, malgré ça, on ne va rien faire sur le patrimoine, on ne va pas faire les travaux, c'est trop cher, c'est machin, on ne veut pas. Non, on ne peut pas dire non. Alors, à quel rythme, comment, avec quels moyens, la question se pose. Et c'est vrai que les gouvernements, il n'y a pas que celui-ci, Climat Résilience, c'était en 2022, c'était le précédent gouvernement, etc. etc. Ça fait 10 ans qu'on se prépare à ça. Est-ce que on peut dire qu'ils ont travaillé sereinement? Non, ils ont travaillé trop vite. Trop vite. Le DPE, il a fallu le retirer du marché parce qu'il n'était pas au point. L'audit énergétique, ça arrive au 1er avril. J'espère que le gouvernement est sûr de son fait. Peut-être qu'il faudra aussi le repousser. En tout cas, on voit bien qu'on travaille dans l'urgence. Moi, ça ne me choque pas. On connaît ça dans nos entreprises. Quelquefois, il faut faire dans l'urgence. On va être très clair. Hein. Bon, vous êtes journaliste.
Il y a quand même deux poids, deux mesures. Parce que moi, quand je vois qu'on supprime le plastique dans l'alimentaire, il faut 25 ans pour l'enlever, quand on sait tout ce que ça fait écologiquement. Et pourquoi, eux, dans l'alimentation, on leur donne 25 ans pour se mettre aux normes? C'est juste enlever le plastique, hein, mettre du papier à la place. Nous, où on parle de structure, on parle de bâtiments, on parle de gros œuvres, il nous faut en si peu de temps se mettre aux normes. C'est comme ça, tu peux louer, tu peux pas louer. Va falloir sortir un cash énorme et il y a même pas les entreprises qui sont en face pour nous aider à réaliser ces travaux convenablement.
Il y a pas les entreprises, on a un problème de fiabilité de diagnostic. Et je parle même pas de diagnostiqueur, je parle des moteurs fabriqués par le gouvernement. Hein. Le DPE, il avait été retiré parce que le moteur n'était pas au point. Et c'est le même moteur pour l'audit énergétique. C'est pour ça que j'ai quelques doutes. Donc, ce que vous dites...
Obligatoire le 1er avril, normalement.
Je ne comprends pas pourquoi il y a deux poids, deux mesures. Pourquoi, dans certaines industries, on leur laisse le temps, trop de temps, à mon goût, et pourquoi nous, alors que c'est quand même... On parle d'immobilier, c'est lent, par essence même du terme, et paf, on nous presse comme ça.
Il y a trois choses. On est parti trop tard. Alors quand on part trop tard, à un moment donné, on est pressé par l'urgence. Deuxièmement, on pèse sur nous une responsabilité plus forte parce qu'on est largement émetteur de gaz à effet de serre. Ce secteur est l'un des gros coupables.
Mais le béton, c'est 18% en France.
Le béton plus pollueur.
Et 40% des émissions. Enfin, bon, bref, on est un mauvais élève de la classe, malgré nous. Hein, personne n'y peut rien, hein, ni le bâtiment, ni les gestionnaires. Mais c'est comme ça. Et puis troisième considération, et là je suis d'accord, il y a un manque de lucidité des pouvoirs publics. Donc c'est le travail, j'allais dire c'est le boulot des organisations professionnelles ou des professionnels de tirer la manche des pouvoirs publics en disant là vous n'êtes pas réaliste. Sur le RGE, vous êtes
pas réaliste. Oui, mais ça a été fait par la FNIL, par exemple, dernièrement. Il n'y a personne qui.
Eh bien, il faut continuer, il faut pousser en mêlée. Voilà, j'espère que. Voilà,
parce que le ministre dit j'entends, mais non.
Le ministre, il entend, mais. Quand je vous dis qu'il y a un manque de conscience du secteur, vous savez, moi, je suis très respectueux des pouvoirs publics. Voilà. Il faut l'aide, mais on peut. Moi, j'ai dans une vie antérieure, il y a longtemps, mais j'ai servi la cause d'élu. Bon, c'est pas facile de l'être. Donc je suis respectueux. Mais je dis aussi, leur conscience, quand je vois aujourd'hui du sujet, n'est pas suffisante. Donc, il appartient au corps intermédiaire de redire. C'est un travail de longue haleine. Et puis, on a des élus. Ça, c'est un peu l'héritage de la Macronie, qui sont un peu hors sol.
Aux réalités.
Aux réalités. On a aujourd'hui, c'est le mécanisme qui a voulu ça, on a une interdiction de cumul de mandat. Au DPE, à mille choses. On a une interdiction de cumul de mandat. Ça veut dire que les députés ou les sénateurs aujourd'hui, ils ne sont plus maires, ils ne sont plus adjoints aux maires, ils ne sont plus.
Oui, donc ils sont dans
la réalité de base, ils ne l'ont pas. Je suis désolé. Et donc, il y a les deux tiers du gouvernement constitués de femmes ou d'hommes très estimables. Moi, je ne suis pas dominant. Qui n'ont jamais été élus. Moi, je veux bien qu'on dise que, par exemple, à la tête de l'AFNAIM, on va prendre un exemple, il y a un gars ou une femme qui n'ait jamais fait de gestion ou de transaction. Je veux bien. Mais c'est embêtant.
Ah bah oui.
Bon, voilà.
C'est pas le cas. On salue d'ailleurs Loïc Quentin qui nous envoie, qui nous écoute souvent.
Ou Olivier Principal, ou peu importe. En tout cas de cause, le principe de ces organisations professionnelles, non mais c'est très intéressant, c'est qu'il faut être un professionnel, les mains dans le cambouis, pour être élu parmi les siens. Ce n'est plus la règle aujourd'hui. Pour être à la tête d'un ministère, d'un grand ministère. La conséquence, c'est que la conscience de ce qui se passe, qu'on évoque nous là, elle est insuffisante. Et quand on tire la manche d'un ministre, il faut encore que ce soit audible pour lui. Voilà le sujet.
Alors, André, vous aviez une question sur l'offre locative.
Alors, l'offre locative est en passe de devenir insuffisante en France. Tu milites pour un statut du bailleur privé. En quoi cela consiste-t-il?
Bon. Le propriétaire investisseur, aujourd'hui, alors quand je dis le propriétaire, il y a celui qui achète dans le neuf, celui qui achète dans l'existant, celui qui fait du meublé, en réalité il y a 10 catégories différentes. Bon, aujourd'hui, la considération que l'État lui fait, la considération fiscale notamment, son statut fiscal, mais aussi son statut civil, quelles sont ses obligations, quels sont ses droits, tout ça est complètement illisible, n'est pas équitable, c'est-à-dire que l'investisseur, effectivement, il apporte quelque chose à la collectivité, sur ses finances propres, sur son épargne, il fait un effort mensuel, il s'endette, et la reconnaissance qu'il a n'est pas à la hauteur. Voilà. Elle peut même être excessive dans certains statuts, on a beaucoup critiqué certains statuts du neuf, peut-être qu'on est allé trop loin dans le neuf. Dans l'ancien, il y a un statut qui est le déficit foncier, qui n'a jamais été réévalué, qui n'a jamais été reconsidéré. Là, on vient de retoucher l'enveloppe de déficit foncier. Si on fait des travaux de transition énergétique, c'est un combat de 10 ans, ça vient d'aboutir. On a doublé. Voilà. Bon, bref, on bricole. Et donc, l'idée d'avoir un statut, c'est de dire, on dit aux investisseurs, vous avez un rôle social, clair, sociétal.
On le reconnaît.
Bon. Et on arrête de le montrer du doigt, ce qu'a fait le président Macron en parlant de rente. J'ai rien contre le président Macron. Ce que je veux dire, c'est que
ça attise la haine pour rien.
Oui, voilà, c'est les sales riches,
celui qui capitalise, qui capitalise en apportant un service, c'est-à-dire qu'il stérilise pas l'épargne. Il apporte un service, on ne le montre pas du doigt. On lui dit, on sait ce que tu fais, on te dit merci. Alors on te dit merci comment? Avec une reconnaissance fiscale, à l'instar de ce qu'on fait pour un entrepreneur. Quand on a une entreprise, on a un outil de production. les charges qu'on expose pour faire tourner l'usine ou le magasin ou le service, elles sont reconnues, des charges. C'est-à-dire qu'elles viennent réduire. On n'est pas imposé sur les charges. Mmh. Bon. On peut amortir l'outil de travail parce que il y a une usure. Bon. D'un meuble, d'un local. L'idée de ce statut, il repose sur l'amortissement et sur la reconnaissance des charges. Voilà. Et avec un statut commun, au neuf et à l'existant, il peut y avoir des différences de vitesse d'amortissement, il peut y avoir, mais en gros, on dit, on est dans le code général des impôts, on n'est pas dans les niches fiscales. C'est pas un truc qui tous les ans est remis en question. C'est Monsieur Périssel, vous êtes investisseur, alors vous êtes dans le neuf, vous êtes, il peut y avoir des différences. Vous consentez un loyer moindre parce que vous avez un esprit plus social, bon, ou que vous êtes dans une ville à Marseille et que franchement, voilà, la moyenne des revenus, ce serait bien que vous tempériez votre loyer. On le prend en considération. Vous faites des travaux de rénovation énergétique, votre logement, il est très bien classé parce que vous mettez beaucoup d'argent dans l'histoire, votre vitesse d'amortissement est majorée. Voilà, un statut qui est éco-conditionné, socialement conditionné, et qui est économiquement de droit public. Voilà, tout simplement, et qui n'est pas une exception. Voilà ce qu'on appelle le statut du bailleur. Après, il faut le construire. Mais la logique, c'est ça. On n'est plus dans l'exception, on n'est plus dans la niche, on n'est pas dans on fait plaisir au bailleur, ou on ne voit pas à quoi il sert. On est dans la reconnaissance sociale et économique.
Donc un statut clair et bien défini.
Voilà.
En tout cas, des aides, au moins les garanties des loyers, ils ont essayé quand même, l'État a essayé de rassurer comme il a pu le parc privé et les investisseurs. Je ne dis pas que ça fonctionne parfaitement, je dis juste qu'il y a eu une idée, justement, d'aider le bailleur, propriétaire.
Il y a eu des choses. Moi, je pense que c'est important ce que vous dites, parce qu'il ne faut pas dire non plus, mais on n'a jamais rien fait pour le bailleur.
Voilà, c'est ça. Non, je voulais juste
c'est très juste. Par exemple, quand on a créé... Tiens, parlons de garantie contre les impayés de loyer, très important. On a créé Visal. Bon. Quand je dis on, c'est pas Macron, c'est encore plus ancien. C'est un produit de sécurisation. Il existait des produits privés, la garantie contre les impayés de loyer, hein, inventée par la FNAIM en 1980, voilà.
On va dire. Comme quoi, c'est une nécessité depuis longtemps.
Bon, ça fait longtemps que je pose cette question-là. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce qu'il faut rendre obligatoire une sécurisation? Il y avait eu des idées d'un parlementaire, Michael Nogal, il est plus parlementaire aujourd'hui, consistant à dire est-ce qu'il faut que les administrateurs de biens forcément garantissent les revenus locatifs? Il faut aller plus loin. Et on pourrait attacher ça au statut du bailleur. C'est très clair. C'est-à-dire que le bailleur lui-même pourrait voir ses revenus sécurisé à 100%, il est certain que... Moi, je dis qu'une chose, l'accession à la propriété, elle est en retrait. Et pendant les années qui viennent...
Ça va pas s'arranger.
Non, ça va se dégrader. Donc, tout va peser sur le parc locatif privé. HLM aussi, hein. Mais HLM, il a ses limites, parce que c'est des fonds publics et que, voilà, bon, donc, c'est, allez, 5,5 millions de logements qui sont HLM.
Ils vont devoir rénover. Est-ce qu'eux aussi rentrent dans ce fameux DPE aussi? Du coup, les logements vont être moins insalubres.
Bien sûr, eux aussi ont leurs contraintes financières, elles sont très élevées, elles pèsent à terme sur les impôts, sur les vôtres et les miens. Et puis, l'essentiel de la mission de louer, c'est le parc locatif privé qui l'accomplit. Voilà. On a un petit 7 millions de logements locatifs privés et un peu moins de 6 millions de logements locatifs sociaux. Voilà. Donc le rapport de force, il est clair, hein. 60-40 à la louche. Le parc locatif privé doit être de plus en plus favorisé pour que les investisseurs soient au rendez-vous de l'histoire. Sans ça, c'est une explosion sociale. Ceux qui ne peuvent pas acheter. Il y a un enfant qui est né, il y a un couple qui se crée ou qui se sépare. Bon, il y a des besoins. Où on va trouver la réponse? Dans l'accession, de moins en moins souvent, dans les 3, 4, 5 ans qui viennent. Et donc, ce sera dans le parc locatif. Ce parc locatif, ce que disait André, il est plutôt menacé par des sorties d'investisseurs qui disent, moi, les 30 ou 40 000 euros, ça renvoie à sa question, je les ai pas, je vends. Je vends. Donc, dites-moi combien je peux en retirer à Marseille, à Clermont-Ferrand, à Limoges. Je préfère prendre le chèque. Je ne vais pas en rajouter. Je vais pas. J'ai pas de proposition de ma banque. Je n'y vais pas. Donc, on est plutôt dans cette menace-là, une attrition, comme on dit, que sur l'abondement. Il faut sauvegarder ça répond à la question tout à l'heure, le parc existant, qu'il n'y ait pas de sortie, pouvoir dire à un bailleur, tu restes, on va trouver les solutions, et on est un administrateur de biens, donc on va trouver les solutions, et deux, bienvenue au club, venez investir dans l'immobilier, vous avez toutes les raisons de le faire, vous avez un statut sexy, etc., etc. Autrement, c'est une bombe sociale. Moi, je vous dis franchement, le ministre du Logement...
L'a dit lui-même.
Mmh. Jamais on avait entendu un ministre de la Ville et du Logement, Olivier Klein, il l'a dit à la Fondation Abbé Pierre, il l'a dit à d'autres reprises, c'est la bombe sociale de demain, il s'est repris, et même d'aujourd'hui. Moi, je vous dis que on a connu les gilets jaunes, c'est très lié tout ça. Les ménages moyens, attention à ne pas avoir des discours de riches, les ménages moyens, ils éprouvent ça aujourd'hui, c'est comment on fait pour trouver une solution. Voilà.
C'est les pires, les ménages moyens. Il n'y a personne pour les aider.
On ne les voit pas. Ils sont sous le radar.
Et sincèrement, dans ma prime rénov', on est un ménage moyen au plafond des trucs. Ce que disait Bérénice, bah oui. Je suis désolée. Mais ok, mais attendez, il faut voir les charges qu'il y a aussi. Ce n'est pas parce qu'on gagne 3-4 000 euros parce qu'il y a les loyers qui rentrent qu'on n'a pas des emprunts à la banque, que justement, il a fallu changer et mettre du double vitrage et ça a coûté 10 000. Et tout ça, c'est moi, je trouve que au niveau du gouvernement, sans être vraiment dans les riches, pour s'en sortir, ma prime rénov', les paliers, ils sont vraiment pas assez. Voilà.
Est-ce qu'il faut mettre plus d'argent public ? Moi, je dis pas non. Je dis juste, alors là, pour le coup, j'allais dire, je me mets à la place du ministre de l'économie, enfin, je la voudrais pas, hein, bon, de voir moi, hein, bon. J'ai beaucoup de respect pour Bruno Le Maire, mais c'est pas une mission facile. Le déficit public, il est abyssal aujourd'hui. Le quoi qu'il en coûte,
ouais, il nous coûte.
Était sans doute nécessaire. Je vais surtout pas dire l'inverse. Il a sauvé des individus, des entreprises, voilà. Mais il reste qu'il a coûté 600 milliards d'euros. Donc, est-ce qu'on peut compter sur une accentuation des aides publiques ? Je suis pas sûr. Je préfère être honnête en disant aux ménages, je me mets dans la peau de l'administrateur de biens, je l'ai été. Est-ce qu'il faut dire aux ménages, bah écoutez, vous inquiétez pas.
Oui, mais là, le problème, c'est qu'en fait, avec cette interdiction de louer, en fait, on force les ménages, on leur force la main dans une période qui n'est pas la meilleure, l'inflation.
Qui est la pire.
Il y a beaucoup de ménages qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. D'ailleurs, il y a des distributeurs qui sortent des paniers anti-inflation. Là, l'inflation, en ce qui concerne l'alimentaire, c'est plus 15%.
Plus donc, 17 même.
Les banques alimentaires partout.
Venant du gouvernement, imposer aux Français de faire des travaux, sinon,
très coûteux.
Est-ce qu'on pouvait éviter Est-ce qu'on pouvait éviter Non, mais les suffragettes, mais raison. est-ce qu'on pouvait éviter l'obligation? J'en sais rien. Moi, je suis pas parlementaire. Je vois, parce que de vous à moi, en copropriété. On n'a pas créé d'obligation, mais ça revient au même. Il y a l'obligation de diagnostiquer, de programmer des travaux, et à l'arrivée, on va les faire.
Après, je suis pas d'accord, parce que chez les jeunes, il y a un sondage qui est sorti à Mastéos, hein, qui a sorti un sondage avec Ipsos. Les jeunes sont beaucoup plus touchés que les moins jeunes par justement le changement climatique, ce qu'il faut faire, la rénovation, et il y en a qui le font, qui ont commencé à le faire avant même l'interdiction. Enfin voilà, il y a quand même une prise de conscience. Vous l'avez dit, on a vu l'été qu'on a passé, on est tous concernés. Est-ce que cette interdiction, c'est pas un peu prendre les Français pour des enfants, au final ?
On n'a pas le choix.
Alors, si, mais est-ce qu'on a le choix ? Moi, je vais vous dire. Je suis président d'école. Vous demandez à une classe de rendre un devoir, mais vous leur dites, alors déjà, c'est ceux qui le veulent. Hein, et puis alors, quand vous voulez, hein, vous l'avez jamais. Bon. Donc, ce que je veux dire, c'est que le calendrier, de vous à moi, il va être revu. Il peut pas en être autrement.
Le ministre a dit non récemment.
Eh ben, il a eu tort de dire non. Bon,
c'est ce que vous avez un scoop.
Un toit dans le monde, premier sur la peau.
Prenez une parlementaire très pragmatique, Marjolaine Meunier-Millefer, vice-présidente de la commission développement durable, l'une des spécialistes de ces sujets. Elle compte dans la République. Elle dit, moi, je suis pas hostile à entendre qu'il faut un rééchelonnement. Bon, voilà.
Bah oui.
C'est-à-dire que...
Au moins, d'ici la fin de l'inflation, quoi.
Après, quand je dis je pense que le ministre a eu tort, c'est pour faire sourire. Le ministre, il est garant d'une politique. Vous savez, c'est comme dans l'entreprise, le DG, il dit, vous savez quoi, c'est comme ça. Bon.
Et puis après on a bien compris que c'était pas lui qui décidait.
Et puis après, on aménage. Oui, et puis on aménage, parce que c'est bien gentil tout ça, mais il va falloir que le résultat soit atteint. Donc, on va revoir le calendrier, mais il n'y aurait pas eu de calendrier impératif, eh bien, dans 100 ans, on n'y serait pas arrivé. Et les administrateurs de biens, pour moi, l'échéance, elle les aide. Et André peut le dire mieux que moi. Vous dites à un client bailleur, le client bailleur, vous lui dites qu'il faut faire des travaux, faire ci, faire cela. La réponse, quelquefois, c'est oui. Souvent, c'est non. Attendez, gentil, ça attendra bien le locataire suivant et tout. On est tous pareils, hein. C'est pas le sujet, hein. Et donc, quand on apporte un outil légal à l'administrateur de biens, il peut dire aujourd'hui, il peut s'en servir en disant, écoutez, vous avez une interdiction de louer. Alors, notre syndicat se bat pour qu'on ait. Mais aujourd'hui, vous l'avez, hein. Moi, j'aimerais qu'on regarde un petit peu comment on peut faire. C'est-à-dire qu'on est sur l'obstacle. Il faut faire. Il faut faire. Donc, cette interdiction, elle est violente. Est-ce que si j'avais été député ou sénateur, est-ce que j'aurais fait différemment? Non. Voilà, j'en serais passé par là. Mais derrière, je dis qu'il faut la souplesse. Dans nos entreprises, on l'a. Vous dites, tiens, on va vendre tel produit, il faut atteindre tel objectif. Et puis quand on ne l'a pas atteint, bon, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on assouplit. Bon, et on ne vire pas tout le monde. On dit, bon, attendez, je comprends très bien, il nous a manqué des moyens, le marché n'était pas
réajuste.
On réajuste. L'État doit le faire. Donc quand le ministre dit, je ne veux pas l'entendre, eh bien, je pense qu'il va...
C'est une boutade.
Il va devoir l'entendre.
Il ne peut pas ne pas entendre. Oui, et il devra se déjuger devra là-dessus. Faire... Il devra dire ce qui n'est pas un problème. Il devra dire, bah, écoutez, finalement, j'ai entendu la FNAIM, l'UNIS, le SNPI, machin, je pense qu'on va rajouter un an, deux ans. Il ne pourra pas faire autrement.
Le temps de créer, de former aussi des entreprises
de
capables
créer,
de faire ces travaux
former,
dont
de
on a besoin.
De mobiliser les banques, de rassurer les bailleurs, de former les administrateurs de biens, évidemment.
Alors, on est très en retard. On va enchaîner tout de suite avec vous, Marie. Est-ce que vous pouvez nous parler de notre ville que l'on met en avant ce jour, Abidjan? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de son attractivité?
Bah, déjà, vous avez votre maillot de bain, parce que là-bas, il fait 26 degrés à ce moment-là.
Oui, je l'ai pris.
Donc, non, je suis très heureuse de parler de l'Afrique. Parler de l'Afrique, c'est toujours une bonne idée. Et l'Afrique flamboyante et cette ville côtière absolument magnifique, donc de la Côte d'Ivoire, qui, je le rappelle, est un pays francophone.
Francophile aussi.
Et francophile. Et donc, et qu'on appelait il y a très longtemps le Petit Paris, la ville lumière, puisque donc on est arrivé là-bas, il faut le savoir, en 1800. Donc c'est vraiment une ville qui a été construite par les colons, avec souvent d'ailleurs des plans d'urbanisme assez utopistes, mais qu'on peut bien voir aujourd'hui qui sont restés
tels que. Qui se reconnaissent en fait.
Et bien il y a même un quartier qui est classé non loin de Abidjan et qui est préservé. Mais Abidjan, voilà, c'est une ville qui est belle. C'est une ville qui est très riche en infrastructures et qui a toujours été, depuis des décennies, il y a toujours eu des restaurants. Il y a toujours eu un mode de vie de sortie, une vie culturelle. Et ça, quand il y a 30 ans, mon papa habitait en Afrique, au Nigeria, à Lagos, il y avait rien pour sortir, ça n'existait pas. Alors quand il arrivait à Abidjan et qu'enfin il pouvait retrouver cette vie de sortie avec des musées, avec des concerts, avec toute cette vie plus européenne, ben c'est vrai que c'était une ville qui était très très agréable et très appréciée des étrangers. Voilà, avec donc des plages paradisiaques, vraiment, à 30-40 milieux de la ville. D'ailleurs, il y a beaucoup d'étrangers qui se sont fait construire des magnifiques villas là-bas et qui aujourd'hui sont intouchables, hein. C'est très très cher, puisqu'on est là pour parler d'immobilier. Il faut le savoir, Abidjan est la ville, en tout cas la ville francophone, la plus chère de toute l'Afrique côtière, hein, on peut le dire. Mais c'est justifié de par les infrastructures, de par l'attractivité aussi économique du pays. Le pays, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais c'était le premier pays producteur de cacao. 70% du cacao vient de la Côte d'Ivoire, il faut le savoir. Et puis il y avait du bois aussi, beaucoup de bois qui a été exporté, mais peu de pétrole. Voilà, donc c'est une ville d'Afrique où on est extrêmement bien accueilli en tant qu'étranger et peut-être encore plus en tant que Français vu qu'on parle la langue.
Forcément, ça aide. Ça.
Mais c'est parce que c'est fait des générations et ouais. des générations. Encore une fois, il y a eu un président d'avant qui s'appelait Oufet Boigny. Qui avait cette vision de garder les Français le plus longtemps possible en Côte d'Ivoire. Et je sais qu'il y a beaucoup, justement, de permis et de passeports qui ont été délivrés. C'était très facile de devenir citoyen de la Côte d'Ivoire quand on était étranger. Je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, si on est aussi légalement accueilli. Toujours est-il que ça fait 50 ans d'une progression extraordinaire. Que quand on parle d'Afrique, ce qu'il est très important de rappeler, c'est que c'est quand même le continent qui a la force de croissance la plus forte, fatalement, puisque tout reste à faire. Donc si demain il y a de la croissance et qu'il doit se passer des choses quelque part, ce sera là-bas. Mmh. Donc si on veut être des investisseurs encore aujourd'hui de la première heure, et aller aider et construire et faire en sorte que les pays, que les terres soient irriguées. On sait irriguer les terres aujourd'hui. Seulement, ça coûte un peu. On a besoin de nous aussi pour construire là-bas. Et je crois qu'il y a des énormes... Voilà, il y a un potentiel énorme pour tous ceux qui auraient l'envie d'aller investir dans ce continent extraordinaire et plus particulièrement à Abidjan, je rappelle, surnommée la perle des lagunes.
Eh bien justement, on se connecte tout de suite à Abidjan.
Un toit dans le monde, la destination du mois.
Et Carole Holo est avec nous. Carole, est-ce que vous êtes toujours là ?
Oui, je suis là, bonjour.
Bonjour, bonjour. Présidente de la Chambre du droit des affaires et de l'immobilier, on est ravis de vous recevoir et je vous laisse entre les mains de Marie.
Oui, c'est un plaisir de vous avoir, Carole.
Alors, bonjour Marie.
Bonjour. Donc, vous avez fait vos études en France, à l'ESPI. Voilà. Et vous êtes rentrée, donc vous avez pris votre activité en Côte d'Ivoire. Comment se porte le marché? Comment se porte la ville?
D'accord. Donc, il faut dire qu'effectivement, j'ai fait mes études sur la France. Et lorsque je suis rentrée dans les années 2008, d'abord, j'étais la seule ivoirienne, femme ivoirienne. À sortir d'une école de formation immobilière pure. Sur le terrain, il y avait des professionnels, mais ils n'étaient pas très nombreux. Ils venaient un peu de divers horizons, c'est-à-dire des notaires, des architectes, des ingénieurs, et ils étaient installés en tant qu'agence immobilière. L'immobilier aujourd'hui en Côte d'Ivoire est, on va dire, bon, dans notre jargon, on dit la Côte d'Ivoire est en marche, Abidjan principalement, et en travail. Donc, l'immobilier aujourd'hui, c'est énormément de réalisations, que ce soit dans le BTP, dans l'habitation, dans le commerce, dans l'industrie. On a vraiment un boom économique actuellement à ce niveau-là. Donc, et en plus de ça, les prix ont complètement flambé. Dans les années 1999, parce qu'en 99, il y avait eu une crise économique, de 99 à 2011, c'était vraiment des prix très abordables encore, mais là, depuis 2011 à aujourd'hui, que ce soit en matière d'achat et de location, les prix ont complètement flambé. Donc, il faut dire que l'immobilier se porte très bien et tout va bien à Abidjan. Voilà.
Mais alors oui, ce qui est fou, si vous voulez, par rapport à des Français qui voudraient s'installer, qui pensent que peut-être c'est moins cher en Afrique, eh bien, ils se trompent totalement. Parce que effectivement, quand on regarde pour une jolie maison à Dakar ou une jolie maison à Abidjan, eh bien, c'est le oui. prix d'une jolie maison à Nice. Voilà, il faut le savoir, voire plus cher. C'est hors de prix. Alors, je ne sais pas comment ça se passe dans les programmes neufs, s'il y a encore moyen de raccrocher le wagon. Mais en tout cas, je sais que toutes les belles maisons coloniales, justement, ou de l'histoire, ou bien placées, aujourd'hui, un Français moyen, c'est totalement hors de son portefeuille.
Bon, on va faire très simple. Je vais vous expliquer un peu. Il faut savoir que Abidjan est... C'est un peu comme Paris, il y a différents arrondissements et en fonction de ce qu'il y a comme commodité, les prix varient. Et c'est pareil à Abidjan. On a des zones, aujourd'hui, je vais donner un peu les prix en euros, j'essaie de convertir pour vous. Par exemple, les zones d'habitation moyenne, nous sommes à 22 euros, par exemple, au niveau du, en matière de, d'achat, par exemple, de terrain. Mais si on part sur de la location, pour un 4 pièces, on peut se trouver facilement à 300 euros. Et lorsqu'on vient vers les quartiers les plus chics,
par mètre carré, hein.
Nous avons... voilà, non, 300 euros. Nous, en fait, en matière d'habitation, on ne parle pas en mètres carrés. On parle en comment je peux dire ça? Que ce soit, on parle plutôt en nombre de chambres.
En module, oui.
D'accord. C'est plutôt en vente que nous parlons, voilà, en mètres carrés. Donc, lorsqu'on vient sur un 4 pièces, qui peut peut-être faire, en fait, j'explique simplement parce que nous, un 4 pièces peut faire 60 mètres carrés. Il peut faire même 200 mètres carrés. En fait, en matière de construction, on ne se base plus maintenant sur les surfaces pour estimer uniquement les prix à la location. Donc, un citoyen qui vient sur la commune, par exemple, de zone 4, qui est une commune où il y a énormément d'expatriés, énormément d'activités économiques, facilement, il peut avoir un 4 pièces à 1 500 euros, si possible, avec piscine. Donc, vous voyez, c'est vraiment un fossé total entre les communes.
Et alors donc, est-ce qu'il y a quand même est-ce qu'il reste des affaires à faire les investisseurs français aujourd'hui ou les étrangers qui viennent vous voir, c'est pour acheter quoi? C'est des gens qui achètent sur des programmes neufs, c'est des gens qui viennent. Quel est le type de client en fait, le profil?
Bon, sur Abidjan, on a vraiment de tout. Il faut savoir qu'en matière d'investissement, on a des investisseurs locaux. Donc, ces derniers vont plutôt acquérir beaucoup plus dans du neuf. L'Ivoirien aime beaucoup ce qui est neuf, beaucoup plus dans le neuf. Donc, ils vont plutôt prendre des habitations, des commerces, des biens qui vont plutôt être de l'immobilier touristique. Et par contre, les étrangers, en général, lorsqu'ils viennent, ils investissent beaucoup dans le commerce et dans l'habitation. Je vais donner quelques exemples. Vous avez des groupes français qui sont à Abidjan depuis, on va dire, depuis 2011-2012. Je ne sais pas si vous connaissez le groupe CFAO, qui Carrefour, Auchan et autres. Donc, ils ont beaucoup investi dans le commerce avec la construction dans certaines zones de la ville d'Abidjan de centres commerciaux. Et vous avez aussi des groupes de promoteurs immobiliers français qui aujourd'hui ont investi dans l'immobilier de bureaux, d'habitation. Et on a même des groupes marocains, des groupes saoudiens, des groupes chinois. Vraiment, tout le monde vient aujourd'hui investir en Côte d'Ivoire.
Mais on a toujours considéré que justement, Abidjan était un carrefour culturel de l'Ouest africain. Et que donc, oui. Justement, c'était pas, il y avait tout, ça rayonnait, en fait, tout autour, et qu'il y avait plein de gens des autres pays alentours qui venaient, justement, à Abidjan, qui était cette ville, en fait, oui, où avec une forte industrialisation et une urbanisation qui ne fait que galoper depuis 2011, en fait.
Oui, c'est effectivement, ça? Abidjan, par rapport à Ouagadougou, par rapport à Dakar, Bamako et autres, a une très forte attractivité économique, parce que non seulement on a un port autonome qui est aujourd'hui le centre, c'est par ce port que tous ces autres pays passent pour pouvoir faire partir leurs marchandises vers l'Europe, l'Amérique. Il faut dire aussi qu'à Abidjan, on a plusieurs banques de l'Afrique de l'Ouest qui sont installées. On a même la BCO qui est aujourd'hui à Abidjan. On a la BOAD, on a la BAD qui est la Banque africaine de développement qui réunit beaucoup de pays africains, pas que des pays de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi des pays de l'Afrique centrale, de l'Afrique du Nord et autres. Donc Abidjan est vraiment le centre des affaires. Donc, ce qui fait que la ville attire tout de suite toutes les autres populations des pays environnants. Donc, une personne, par exemple, qui vient du Burkina Faso, lorsqu'elle arrive sur Abidjan, elle a la possibilité de pouvoir investir dans un projet. Bon, après, ça dépend. Il ne faut pas dire n'importe quoi, ça dépend du projet. Donc, voilà un peu. Mais bien en matière immobilière... Nous n'avons pas de restrictions comme certains pays qui interdisent que des pays, même africains, puissent acquérir ne serait-ce qu'un bien immobilier dans leur pays. Donc nous, en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas ce genre de restrictions.
Et en termes de monnaie et de stabilité, comment ça se passe? Il faut combien d'euros pour... Enfin, comment se passe la conversion? C'est très haut, c'est très bas en ce moment? Votre monnaie, c'est comment?
Notre monnaie reste très basse par rapport à l'euro. parce qu'un euro fait 650 francs CFA, approximativement. Je vous donne un exemple simple. Le SMIC, aujourd'hui, il est à 115 euros depuis le 1er janvier de cette année, 2023. Donc, il est à 115 euros. Avant, il était à 100 euros. Ils ont juste rajouté 15 euros. Donc, vous voyez, c'est vraiment l'euro est vraiment élevé par rapport au CFA.
Très bien. Bon, bah, écoutez, les tendances des prix, vous nous en avez parlé pour la location, mais en gros, oui, voilà, si on veut faire une affaire, même si c'est un peu plus loin, vous direz que le ticket d'entrée, il est à combien à l'achat au mètre carré ?
Sur la ville d'Abidjan, il faut compter au moins 100 euros le mètre carré.
Bon.
100 euros le mètre carré, voilà.
Mais au moins, au minimum. Mais en minimum. Moyenne. Oui, non, moi je vous parle en moyenne.
Parce que 100 euros le mètre carré.
Mètre carré, là tout le monde va venir demain, tout le monde part.
Comme je disais, au fait, comme je disais, à Abidjan, il faut vraiment se dire une chose. Quand je viens sur la Côte d'Ivoire, tout va dépendre de où je m'installe sur la ville d'Abidjan. Si je décide de m'installer à Cocody dans un quartier chic,
oui,
c'est vraiment minimum 100 euros. Si je veux aller en zone 4, c'est 1500 minimum le mètre carré. Parce que zone 4, c'est la zone des expatriés. Si je veux aller un peu plus bas, c'est 22-30 euros minimum. Donc, tout dépendra vraiment de où est-ce que vous installez.
Bon, oui. En tout cas, ce qui compte, c'est surtout d'être accueilli, c'est d'avoir envie de venir visiter votre pays et d'avoir envie, effectivement, de s'y installer et de se dire non seulement on va manger les meilleures langoustes du monde, les meilleurs poissons et que voir des plages paradisiaques et des belles forêts, parce qu'il faut le dire aussi la Côte d'Ivoire est très verdoyante.
Très verdoyante.
Voilà,
nous avons énormément
cette
de parcs, des espaces culturels, des montagnes. Il n'y a pas que. Abidjan, moi, j'appelle la Côte d'Ivoire d'abord le monde, parce que nous avons des régions de montagnes, des régions de savane, nous avons des forêts, nous avons la mer.
Oui, une diversité de paysages extraordinaires. Bon, mais écoutez, on a très envie de venir. Bérénice.
Eh bien moi c'est bon, je vais réserver mon billet d'avion. Merci en tout cas Carole, merci infiniment pour nous avoir présenté Abidjan. On fait le point tout de suite. Merci Marie aussi. On fait le point tout de suite avec l'agenda, André.
Oui.
Un toit dans le monde, l'agenda de l'agence Étoile.
Et deux salons à ne pas louper.
Deux salons pour le mois de mars et d'avril. Le salon de l'immobilier neuf fait son retour à Paris les 17, 18 et 19 mars, à Porte de Versailles.
Dans le 15e.
Et le salon du patrimoine immobilier, 6 et 7 avril, au Carreau du Temple, dans le 3e arrondissement.
Et bien voilà, et bien on y sera, André. Merci beaucoup. On fait le point tout de suite avant de nous quitter.
Un toit dans le monde, la conclusion.
Alors André, pour conclure ce numéro, que doit-on retenir ?
Eh bien, je retiens d'Henri Buzicazot, sauvegarder le parc existant et investir dans l'immobilier. Et puis je retiens de Carole, Abidjan, une très belle ville. Et comme beaucoup de villes dans lesquelles nous voyageons, on a vu, c'était le cas au Panama, c'était le cas à Dubaï, on a été aussi voyager à Barcelone.
C'est vrai qu'on a tout fait, en fait, quasiment.
Voilà, et donc on peut dire qu'Abidjan est une ville où le marché immobilier se porte bien. Abidjan is booming.
Eh bien, merci infiniment André, merci Marie, merci à nos deux invités, Carole Olo en direct d'Abidjan et merci à Henri Buzicazot sur le plateau.
Monter une école immobilière en partenariat avec l'IMSI à Abidjan, c'est-à-dire qu'elle va faire en sorte que les Ivoiriens apprennent à faire les métiers de l'administration de biens, de la transaction, de la promotion, mais que des Français sont bienvenus aussi pour aller faire de l'immobilier là-bas. Voilà, c'est un marché merveilleux.
Eh bien, c'est génial. Beau projet, donc en perspective.
Merci d'avoir ajouté ça. C'est vrai que c'est important.
C'est important. Merci beaucoup. Merci à tous. Cette émission touche à sa fin. On se retrouve évidemment le mois prochain pour un tout nouveau numéro de Un Toit dans le Monde.
Un Toit dans le Monde, l'émission de l'immobilier international en partenariat avec Agence Étoile. À réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.